Je suis Yolande Magny, je suis née en 1956, en plein froid de l'hiver, dans une famille donc, où j'étais la sixième. Après moi, devaient encore arriver trois enfants, donc je suis la sixième d'une famille de neuf enfants. Et du coup, italienne, puisque, on le sait, les familles italiennes sont souvent, très souvent nombreuses, jusqu'à une certaine période. Et voilà, je suis née de parents qui sont arrivés différemment, mais qui sont arrivés en France. L'une en 1924, l'autre en 1943. Et oui, j'ai pas l'impression forcément d'être italienne. Je suis quand même née en France et puis dans un milieu qui a tenté de s'adapter à la société française. Mais j'ai quand même le sentiment de l'être, puisque je me suis rendu compte après coup et au contact des autres que, effectivement, on avait une particularité, et plusieurs particularités, et surtout qu'on vivait à l'italienne sans le savoir. Plutôt, on a vu ensuite, au contact avec le monde, qu'il y avait des pratiques chez nous, des habitudes, que ce soit nourriture ou autre chose, qui étaient différentes des autres. Mais ça, c'était donc les différences de surface, parce que je me suis quand même rendu compte aussi d'autres différences, mais celles-là beaucoup plus ténues ou bien souterraines. Du moins, pas aussi facile à identifier. Voilà, alors ces arrivées en France, la première du moins, c'est tous ces gens que j'appelle les pionniers, qui sont arrivés donc en novembre 1924. Donc c'était un groupe de 11 ou 12 familles, je ne sais plus, mais qui formait en tout donc un groupe de 140 personnes, qui sont arrivées tout en même temps, avec toutes les strates familiales, les grands-parents, les parents, les enfants, les voisins, les cousins, enfin tout un ensemble de familles qui venaient pratiquement toutes du même endroit, en Italie, du Nord. Et voilà, ma mère fait partie de ce contingent-là, qui arrive donc dans un monde complètement inconnu pour eux, évidemment, puisque bon, si on se replace dans l'époque, qu'est-ce qu'on sait des territoires au-delà des Alpes? Pas grand-chose. Enfin, si, certaines personnes savaient pour avoir travaillé ici et là, souvent en Suisse ou bien juste au-delà des Alpes, mais enfin, personne ne savait véritablement ce qui pouvait les attendre. Enfin, c'est sans doute là la chose, moi, qui me paraît la plus miraculeuse ou enthousiasmante, c'est de me dire qu'il y a des gens, même s'ils sont vraiment poussés par des raisons vitales pour le faire, il y a quand même des gens qui, à un moment donné, se décident comme ça à partir, traverser ces montagnes et puis se laisser porter vers l'autre bout, vers un autre bout de terre, sans imaginer ce que ça peut être. Bon, après, c'est sans doute parce qu'ils ne s'imaginent pas ce qu'ils vont trouver qu'ils partent. C'est ce qui est bien dans le rêve et l'illusion, c'est que ce moteur, heureusement que c'est là, parce que sinon, je pense qu'il serait... Ou du moins, une bonne moitié des gens qui sont partis ne seraient pas partis, s'ils avaient su ce qui les attendait. Des mouvements de masse comme ça, ou des gens qui décident de partir à plusieurs, il y a eu plusieurs cas comme ça. Plusieurs familles peuvent partir ensemble, mais là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils partent ensemble dans une organisation mise au point par l'État, l'Église surtout, et la Banque de Bergame. Et c'est ça la particularité de cette émigration-là, c'est qu'effectivement, ils partent à plusieurs, mais ils partent à plusieurs dans un encadrement particulier. Et ce qui peut à la fois être rassurant et qui peut les motiver pour partir, cet encadrement-là va être aussi c'est la cause de leur échec en France. En fait, c'est toute l'ambiguïté de l'histoire. Une organisation donc est mise au point par l'Église, alors par souci de conserver une italianité et conserver aussi une foi qui pourrait se perdre au contact des Français. Maîtriser cette immigration, parce que le problème, voilà, c'est que les trois quarts des Italiens émigrent et puis on ne contrôle plus ce qui se passe au-delà des frontières. Donc la mise au point d'un système comme ça devait permettre, dans l'esprit de ceux qui l'ont fait, de continuer à maîtriser ce petit monde d'Italiens. Donc je parlais de l'Église, de l'État italien aussi, qui entendait en même temps maintenir les traditions, la langue, former donc cette fameuse colonie qui allait pouvoir être un petit îlot italien à l'intérieur des terres françaises. Donc là, ça c'est la particularité, l'unicité même de l'expérience, qui je crois s'est aussi tentée dans le Nord pour l'industrie, mais qui n'a pas non plus donné... Enfin, si, elles ont toutes marché dans le sens où les gens sont restés et ont fini par s'intégrer. Mais elles n'ont pas marché en tant que système tel qu'il était prévu au départ. Le village de départ, c'est Kalouskoudada. C'est un village qui est à une trentaine de kilomètres de Milan et pas loin de Bergame. Le nombre de kilomètres exact, je ne me rappelle plus, mais pas loin non plus. Donc, c'est le nord de l'Italie, on est au pied des Alpes et on est encore dans ce qu'on appelle la plaine du Pô, intermédiaire entre les Alpes et la plaine du Pô. Donc, une région très riche, agricole très riche, et avec des villages qui sont, alors qu'en France c'est pas comme ça, c'est des villages qui sont encore très construits, carrelés, en bon état, alimentés en électricité et en eau, quelque chose qui ne ressemble pas forcément à une campagne perdue et misérable. Et c'est pour ça que ça peut être surprenant aussi, l'idée que des gens vivent comme ça dans des lieux qui ont l'air apparemment florissants. Mais le problème, c'est qu'ils n'y contiennent pas. Ils sont trop nombreux et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais ce n'est pas une campagne perdue et des gens miséreux qui arriveraient là en haillons, pas du tout. Ils vont quitter un paysage construit et aménagé et qu'ils vont arriver tous dans ces ruines à Blanquefort, donc, au cœur du Gers. Donc comment est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent en train, ce qui est quand même déjà assez fabuleux parce que ça veut dire qu'en continu pendant 2 jours, ils vont traverser, ils vont matérialiser, ils vont vivre tout ce trajet entre ce qu'ils quittent et ce qu'ils vont trouver. Et là aussi, pendant 2 jours, sans doute qu'ils ont dû échafauder tout un tas de plans sur ce qui pouvait les attendre. Et la surprise quand même était bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. La surprise, c'est qu'ils sont arrivés au milieu de friches et de ruines. Alors que quand ils partaient, évidemment, ils imaginaient la France comme beaucoup ont imaginé les États-Unis, un pays de rêve, un pays où tout est parfait et tout tient debout, alors que c'était exactement l'inverse. Évidemment, c'est pour ça qu'on les avait appelés. C'est pour remettre en état les ruines et pour remettre en état les terres. Donc, ils auraient pu y penser. Mais la déception était cruelle parce que jamais ils n'auraient imaginé donc trouver ce qu'ils ont trouvé. C'est toujours ce qui revient quand on parle avec les gens. Les femmes pleuraient. Les femmes pleuraient parce que les maisons ne ressemblaient pas à des maisons, les chemins ne ressemblaient pas à des chemins. Le village en question dans le Gers n'était pas un village au sens strict du terme avec une entité. C'est plutôt un habitat dispersé, ce qui fait que tous les gens se sont retrouvés séparés par des kilomètres debout les uns des autres. Et pas d'eau courante, pas d'électricité, la terre battue, les toits défoncés, enfin, les ruines. Les ruines, voilà. Donc évidemment, là, on peut penser que la déception est amère, mais surtout pour les femmes, puisque les hommes, eux, ont vu les champs, les étendues, la possibilité de travailler, l'aisance, enfin, c'est ça, puisqu'en Italie, ils sont coincés tous sur moins d'un hectare, une famille entière. Là, ils ont des champs entiers devant eux, donc les hommes le voient sans doute différemment à ce moment-là. Mais les femmes, sans leur enlever de leur courage, etc., elles ont, elles, imaginé comment elles allaient vivre là-dedans, avec les enfants, et Dieu sait s'il y en avait. Donc là, ça a été assez catastrophique dans l'esprit de beaucoup d'entre elles. Cela dit, ils n'étaient pas tous paysans. Ils sont partis parce qu'on demandait des paysans, mais certains ne l'étaient pas. Il y avait au milieu, il devait y avoir un boucher ou autre, mais les gens étaient appelés pour travailler la terre et pas pour autre chose. Il se trouve qu'ensuite, comme chacun a pu reprendre plus ou moins avec le temps son activité d'origine, certains ont travaillé dans la fabrique de briques pour reconstruire les maisons, d'autres se sont rabattus sur les moulins, mais ça c'était plutôt par affinité personnelle. Mais leur contrat était un contrat du régime agricole, et pas ni le commerce, ni l'industrie, donc ni la maçonnerie. Là aussi, c'est des lieux communs de dire que tous les Italiens sont maçons. Ce sont les Italiens de la précaire, qu'on a fait venir pour ça. Ils exerçaient le métier pour lequel ils avaient été appelés, pas un autre. Ça s'appelle l'immigration choisie.
«
tous ces émigrés qui partent en même temps, du moment qu'ils sont donc dirigés par un directeur, coincés un peu aussi par les emprunts, parce qu'ils partent pour fonder quelque chose de nouveau, donc ils font des emprunts, donc il y a la banque qui est derrière, il y a l'État qui est prêt aussi à allonger des subventions si c'est nécessaire, donc tout ça c'est le piège de chaque assistanat, hein. Ils sont assistés et en même temps ils vont devoir rendre des comptes. Et l'intention est vraiment celle-là, voilà, de maintenir l'italianité et de contrôler un peu ce que peuvent devenir tous ces gens-là dès qu'ils ont quitté le pays, en fait, pour qu'ils restent italiens. Donc ils vont continuer à se marier pour beaucoup, mais enfin avec le temps ça va se dissoudre, mais pour beaucoup ils se marient devant le consul d'Italie, selon les lois italiennes. Et l'intérêt, c'est donc qu'ils restent italiens, qu'il n'y a pas de perte de tous ces gens-là quant à les traditions, la culture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on amène avec tout ce contingent de personnes des sœurs qui vont apprendre l'italien et la religion aux enfants, du moins ça, parce qu'ils vont apprendre aussi la couture pour les filles. Le travail des hommes, donc sans doute très difficile, surtout bon, au début évidemment, puisque faut imaginer ce que c'est que des ronces. C'est la nature, une nature hostile qui résiste. Des bois qui sans contrôle donc, se sont étendus un petit peu partout, les souches, les racines, enfin quelque chose, une nature qui a dû résister violemment au début. Une résistance de la nature ajoutée au fait qu'ils n'avaient pas d'outils. Alors que normalement, justement, dans un contrat de métayage normal, il devrait y avoir des outils sur place. Là, il se trouve qu'il n'y en avait pas ou très peu. Et donc, tout travail sans l'outil approprié est encore plus difficile. Quelquefois, les hommes disent que les femmes ne travaillent pas au champ. Par contre, les femmes disent qu'elles travaillent au champ. Là aussi, c'est une histoire de perception selon qui on interroge. Par exemple, j'ai entendu « mais les femmes ne travaillaient pas au champ, c'était pas possible, elles n'avaient pas le temps ». Avec tous les enfants qu'il y avait à la maison, il était impossible qu'elle travaille au champ. Sauf quand il y avait un orage qui menaçait ou quand il y avait vraiment quelque chose d'urgent à régler. Et je pense que c'est vrai, mais ça doit dépendre aussi d'un certain cas. Par exemple, les enfants, évidemment, ne travaillaient pas, n'en avaient pas la possibilité. Mais dès 10-12 ans, les filles, quand même, commençaient déjà à sarcler. Sarcler, c'était une pratique très particulière, qui demandait beaucoup de main-d'œuvre, et donc là, sans doute que les jeunes filles allaient travailler au champ, c'est sûr. Les femmes, un peu moins avec les petits, mais donc quand il y avait nécessité de le faire, et dans certaines familles, c'est sûr aussi que certaines femmes allaient travailler. J'ai entendu parler de petites anecdotes de femmes qui allaitaient, donc qui amenaient le bébé dans la caisse à savon au bout du rang du champ de pommes de terre, qui travaillaient, qui allaitaient, qui repartaient travailler. Ça, je sais que ça s'est passé.
Grande data per la rivoluzione delle camicie nere e il popolo italiano di vivere questa grande ora.
Puisque c'était donc établi comme une colonie, donc sous domination, dépendante du régime italien, et en même temps c'était une expérience qu'on avait envie de montrer sous son meilleur jour. Donc toutes les instances, donc toutes les autorités italiennes présentes en France se sont mêlées du projet, ont suivi le projet. Et effectivement, le consul ou le vice-consul venait régulièrement remonter un petit peu l'ardeur qui tendait à décliner, faire des grands discours sur l'amour de la patrie, l'amour de Mussolini. Donc il y avait cet encadrement qui était de la propagande, mais il y avait aussi un encadrement financier, c'est-à-dire qu'il y avait des subventions qui étaient données, par exemple, à l'école. à l'école italienne. Des cadeaux pour les enfants. Il y avait aussi tout ce qui était trousseau pour les bébés à naître. Donc on offrait un voyage en Italie aux femmes pour qu'elles aillent en Italie faire naître leur bébé et que le bébé naisse sur le sol italien. Et elles avaient en même temps toute la... pas le dot, la dot, le trousseau. Donc là aussi, il y avait beaucoup de dissensions entre les gens. Certains qui disaient, qui étaient partis en conscience, donc, qui savaient très bien qu'ils avaient quitté le régime de Mussolini, et d'autres qui n'avaient pas cette conscience-là. Donc il y avait sans doute des heurts entre ceux qui acceptaient tous les avantages du gouvernement et ceux qui refusaient d'en entendre parler. Pour les gens de l'extérieur, c'était pareil. C'est-à-dire que cette communauté, cette micro-société, là, se montrait. Mais se montrait de manière, là aussi, la manière de spectacle. C'est-à-dire qu'il y avait des représentations de théâtre, par exemple. Ce qui fait qu'il y avait des moments, des pôles d'attraction qui faisaient que les gens des alentours venaient voir, venaient assister au spectacle d'eux. Et ces spectacles-là étaient aussi faits pour montrer ou pour donner une image positive à l'extérieur. Il y avait donc des... Ça, c'est ma mère qui m'avait raconté des histoires comme ça. Il y avait des représentations de théâtre avec des textes écrits par un de mes oncles qui forçait toujours aussi, là aussi, pour rendre grâce au régime, rendre grâce à la générosité de Mussolini. Et en même temps, c'est ce qu'on montrait aux autres. Donc, ils étaient à la fois dans un système de vitrine avantageuse et de contact, mais de contact comme ça, très mesuré. Mais ça, c'est au cours des années 30. Hein. On est toujours... tout ce dont on parle depuis le début, là, c'est donc d'une période qui se situe entre 1924 et 1934.
Sur le front de l'Est, le Führer s'apprête à accueillir M. Mussolini. Nouvelle manifestation des liens unissant les deux puissances de l'Allemagne.
La communauté ou la colonie a fait faillite. Alors là aussi, c'est peut-être pas le terme juridique exact, mais en tout cas, financièrement, elle n'arrivait plus à s'en sortir pour des histoires donc de dettes, d'emprunts qui enflaient et qui faisaient qu'à un moment donné, il était impossible d'assainir les comptes. Donc, elle s'est arrêtée, du moins juridiquement, le système s'est arrêté. Et c'est là donc que toutes les familles, au lieu de passer toujours par ce fameux directeur, donc, a pu établir des contrats directs avec le propriétaire. Et à partir de là, le sentiment sans doute de chacun, c'est d'avoir eu pendant longtemps le sentiment d'avoir travaillé pour rien pendant toute cette dizaine d'années, sans avoir réussi à progresser financièrement. Ils étaient toujours pratiquement au stade du début. Mais là, les choses ont commencé donc financièrement à s'améliorer quand le système lui-même s'est arrêté. Ça ne s'est pas fait non plus en un jour, c'est-à-dire que justement le consulat qui avait des vues sur cette entité italienne n'a pas voulu lâcher tout de suite. Donc il y a eu encore des discours, il y a eu encore tous ces essais de propagande, mais là on est déjà en 37, 38, 39 et évidemment, là, les choses vont être vite bouleversées assez violemment, puisque la menace arrive, puisque on sait très bien que Mussolini commence à s'étendre un peu partout entre l'Albanie, la Grèce. On sait les dégâts qui sont causés un petit peu partout. Et là, il n'y a plus qu'une seule peur, c'est que Mussolini finisse par déclarer la guerre à la France. Et donc ils vivent tous dans cette terreur-là, et évidemment, c'est ce qui arrive. Et à ce moment-là, il n'est évidemment plus du tout question de colonie, ni même d'italianité, parce que avec l'éloignement, ils prennent conscience de la barbarie, justement, de Mussolini, du fait qu'eux sont là, des enfants sont nés là, les gens commencent à se marier, certains avec les Français, et donc il n'est plus du tout question de revenir en Italie. La question se pose pour certains, et même comme la colonie se défait, en Italie on décide de leur proposer d'émigrer en Libye, de tout recommencer ailleurs, ou alors d'émigrer dans les marais pontins, des régions qui ont été asséchées et qui demandent là aussi en Italie de la main-d'œuvre. Mais eux, non, ça y est, c'est stop. Ils sont là, les enfants sont nés là, ils vont rester là. plus le temps passe et plus j'en parle et plus j'ai des retours donc de lecture du livre, plus je me rends compte que les trois quarts des gens qui ont émigré à ce moment-là ne sont jamais revenus en Italie. Difficile aussi là, de percevoir, de savoir pourquoi les femmes reviennent plus volontiers et les hommes ont beaucoup plus de réserve. Mon père n'a parlé que d'une chose, à partir du moment où il est arrivé ici, il ne parlait que d'une chose, c'est de repartir en Italie. Puis ça a été partir au Canada, c'est-à-dire arriver ici comme si c'était une transition, et puis dans l'espoir de partir ailleurs, comme si, ça y est, l'errance était amorcée, il fallait encore, aller encore plus loin. Et puis à un moment donné, les choses se sont arrêtées. Et puis après, avec le progrès quand même, l'amélioration des conditions de vie, beaucoup de gens ont été capables de revenir en Italie financièrement. Ils pouvaient se payer le voyage et revenir en Italie. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Donc c'était pas une question financière. C'était est-ce que je me décide à revoir ce que j'ai laissé? Est-ce que j'ai honte d'être partie? Est-ce que j'ai honte aussi pour certains Italiens qui ont vécu leur enfance sous domination fasciste, alors élevés à la mode fasciste, très dur, les balais, ben tout l'embrigadement qu'il y avait à ce moment-là? Est-ce que je peux sans doute affronter le regard des Italiens qui, eux, ont fait la boucle, qui ont vécu le fascisme, qui s'en sont sortis, qui se sont révoltés à un moment donné et qui se sont finalement purifiés de ça, alors que ceux qui sont partis à ce moment-là n'ont pas eu le temps de faire ce chemin.